Bonjour Hervé.
Bonjour.
C'est le 1er mai, donc les journaux en papier ne paraissent pas, mais il y a toujours des choses à trouver sur Internet, et c'est ce que vous avez fait ce matin sans aucune difficulté.
Mais bien sûr.
En couverture du magazine américain Time, Donald Trump avec ce titre « S'il gagne ».
Et un portrait posé de l'ancien président américain en noir et blanc, costume sombre et regard dur. Dans un long entretien, Trump annonce la couleur. Pour lui, l'erreur cruciale de son premier mandat est qu'il a été trop gentil. S'il revient, il se dit prêt à expulser plus de 11 millions de personnes des États-Unis, à construire des camps de détention de migrants et à déployer l'armée, y compris dans le pays. Il limogerait un ministre de la justice qui n'exécuterait pas ses ordres. Il envisage de gracier tous ses partisans impliqués dans l'assaut du Capitole. Il n'exclut pas d'aider un allié qui serait attaqué, sauf s'il trouve que ce pays ne dépense pas assez pour sa propre défense. En revanche, il dit que les États-Unis seront là si Israël est attaqué par l'Iran, tout en critiquant férocement la politique de Netanyahou.
Dans l'hebdomadaire Challenge, le prix Nobel d'économie Paul Krugman évoque lui aussi une possible victoire de Donald Trump.
Oui, le magazine Challenge a eu la bonne idée d'avancer sa parution avec une couverture sur les grands escrocs qui ont exploité le capitalisme. Pas de rapport direct avec Donald Trump, mais Paul Krugman lance un avertissement aux riches Américains qui seraient tentés de le soutenir parce qu'il promet des baisses d'impôts. Un retour de Donald Trump ferait de l'Amérique un endroit plus angoissant, écrit-il, ce qui devrait bien plus préoccuper les milliardaires qu'une variation de quelques points de leur taux d'imposition. Il devrait tirer les leçons de ce qui est arrivé aux oligarques qui ont aidé Poutine à accéder au pouvoir en Russie. Ils ont fini par s'apercevoir qu'une fois que vous avez mis en place un dictateur, votre richesse ne vous procure pas le bouclier que vous aviez espéré et vous pouvez finir en Sibérie.
Sur le site de Libération, un récit des négociations en cours en Égypte pour un cessez-le-feu à Gaza. On vient d'en parler avec Gilles Kepel. Je vous recommande l'entretien. C'est sur Radio Classique dans quelques minutes.
Négociations souterraines, au sens propre comme au sens figuré, car les discussions entre Israël et le Hamas ont lieu au Caire, avec des médiateurs égyptiens et qataris, mais elles sont soumises à la volonté d'un homme invisible terré dans les tunnels de Gaza, le chef du Hamas, Yahya Sinwar. C'est lui qui fixe la ligne et le rythme des tractations, écrit Libération, et savoir comment se fait la communication avec lui est aussi secret et inaccessible que l'homme lui-même. Un dirigeant du Hamas a évoqué dans la presse égyptienne les canaux hautement protégés par lesquels les informations s'échangent entre les négociateurs et leur chef. Selon ce témoin, l'armée israélienne n'a pas découvert plus de 20% des tunnels où se cachent les terroristes.
Le même chef du Hamas, Yahya Sinwar, est au cœur d'effrayantes révélations du quotidien israélien Haaretz, qui n'est pas un quotidien d'extrême droite, loin de là.
Le journal consacre une enquête fleuve aux origines des attaques du 7 octobre et on en trouve les grandes lignes sur le site de Courrier International. Haaretz a interrogé des dirigeants du Fatah et des partisans du Hamas. Il en ressort que depuis 2 ans, Sinwar avait planifié non seulement une guerre, mais une conquête totale d'Israël. Les plans étaient si détaillés, disent les témoins, qu'ils contenaient un relevé cadastral de milliers de biens censés être saisis par le Hamas dans tout le pays. Une liste de fonctionnaires a été dressée pour les installer à la tête des villes et des villages. Quant au sort des habitants, pour les colons juifs occupant la Palestine usurpée, disait le plan, ceux qui ont pris les armes contre nous seront exécutés et les civils auront le choix entre la conversion à l'islam et l'exil.
Une conquête réussie, c'est celle des moustiques, les insectes qui ont envahi la planète.
Article surprenant qui a piqué ma curiosité, si j'ose dire, sur le site slate.fr. On y apprend que le moustique est apparu bien avant l'homme, il y a 220 millions d'années, quand les terres émergées formaient un continent unique. Et on y apprend aussi que le génome du moustique lui permet de s'adapter à presque toutes les variations de l'environnement. Il n'y a que les régions où l'eau est gelée en permanence, comme la banquise ou les très hauts sommets, que les petits vampires volants n'ont pas réussi à coloniser. Il existe plus de 3500 espèces de moustiques et sans doute des milliards d'individus car leur taux de fécondité est exceptionnel et leur temps de génération, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour se reproduire, ne dépasse pas 10 jours.
On comprend mieux pourquoi les humains ne sont jamais arrivés à se débarrasser véritablement des moustiques.
Oui, ce n'est pas faute d'en avoir rêvé, mais Slate nous apprend que ces nuisibles ne le sont pas tant que ça. Donc, ce n'est peut-être pas une priorité de s'en débarrasser. Il est exact que certaines espèces transmettent des maladies mortelles, mais ce sont des exceptions dans la florissante diversité culicidienne, écrit Slate. Les culicidés, c'est le nom savant des moustiques.
J'ai eu peur.
Plus généralement, les moustiques jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, car ils servent de nourriture à de nombreux animaux, des libellules aux chauves-souris, et comme ils ont besoin de sucre pour voler, ils contribuent aussi à la pollinisation de certaines plantes. Pensez-y la prochaine fois qu'une envie de meurtre vous saisira en entendant un moustique siffler dans vos oreilles.
Pour finir, une autre constatation scientifique que vous avez dénichée sur le site de West France, l'activité sportive stimule la mémoire.
Découverte à portée de toutes les bourses et de tous les biceps, une étude de chercheurs de l'université japonaise de Tohoku, la pratique occasionnelle de la musculation ou d'un sport à haute intensité musculaire est bénéfique pour la mémoire. Les protéines libérées par le cerveau durant l'effort stimuleraient la fabrication de nouveaux neurones. L'expérience japonaise consistait à faire apprendre des listes de mots à deux groupes d'individus. Puis, l'un des deux groupes devait lever des poids par flexion et extension des jambes. Deux jours après, ceux qui avaient fait travailler leurs muscles se souvenaient mieux des mots que les autres. Et des analyses IRM montrent au surplus que leur activité neuronale avait augmenté. Ce qui prouve donc que les premiers résultats apparaissent après une seule séance de sport. La découverte pourrait donc redessiner les processus d'apprentissage chez les jeunes, écrit Slate. Si les Américains faisaient plus de sport, peut-être que Trump serait moins haut dans les sondages.
Une revue de presse sans journaux en papier, c'est la performance d'Hervé Gattegno en ce 1er mai. Je vous avertis que le 8 mai, c'est pareil, me semble-t-il. Les journaux en papier ne sortent pas.
Bon, il y en aura sûrement un peu plus.
Hervé Gattegno qui a beaucoup de mémoire puisqu'il fait beaucoup de sport. Oui. Voilà. À demain Hervé. Merci tout de suite. Nos esprits libres sont dans la place. Routel-Krieff et Marc Lambron, Radio Classique.